français
entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous, comme tous les ans à pareille époque, la bataille fait rage. À tous les étages en top 14, il y a ce duo de tableau qui rêve de gloire, de bouclier de Brennus et de qualification pour les phases finales. Et tout en bas de tableau, une autre bataille, peut-être encore plus acharnée, celle qui concerne le maintien dans l'élite. Si l'affaire semble malheureusement tendue pour le Biarritz Olympique, 14e et bon dernier à 11 points du 13e, il reste encore du suspense concernant la 13e place, justement, celle qui permet d'obtenir une dernière chance au grattage et un match de barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2. 13e place occupée à l'heure actuelle par l'USAP qui livrera samedi prochain un match capital face à Brive qui devance le club catalan d'une place et de 7 points. Rencontre clé dont on parlera dans un instant avec notre invité Patrick Arletas, le manager catalan. Le BO et l'USAP en position délicate, c'est malheureusement souvent le cas pour les promus qui font régulièrement l'ascenseur, qui ont du mal à s'installer durablement dans l'élite. Cette situation est-elle inéluctable et comment y remédier? On posera toutes ces questions à nos poteaux qui ont sûrement plein de solutions à nous apporter. La bande des poteaux composée aujourd'hui, c'est un plaisir de l'accueillir dans les poteaux. Là, on a un vrai expert, là, ça change un peu de Denis Charvet quand même. Richard Dont est avec nous. Salut Richard.
Salut Christophe, salut
à tous. T'as intérêt à être bon, hein, parce que...
Mais apparemment.
Ouais, là, t'as un peu la pression. Également avec nous, mais lui, il est toujours bon, Manu Messicard, le patron de Midi Olympique. Salut Manu.
Ouais, salut les amis.
Fayot.
Ouais.
Et notre... Alors, encore plus Fayot, notre chef vénéré à nous, le directeur du rugby d'RMC, ça, c'est pas rien quand même. il sourit, enfin il rougit plutôt.
Oui.
Jeff Paturo.
Bonjour.
Ça va mon Jeff?
Bien travailler avec des professionnels enfin.
Très bien, messieurs, avant d'accueillir notre invité, on se remet dans l'ambiance de la promotion, de la relégation, les finales de Pro D2 la saison dernière. Le grand bonheur pour l'USAP et pour le Biarritz Olympique.
Et c'est terminé! Perpignan retrouve le top 14 deux ans après l'avoir quitté.
Terminé à Bayonne, Bayonne qui affrontera donc Biarritz. Ce sera samedi prochain à Aguilera. Terrible désillusion pour les joueurs de Yannick Brune et Stephen Armitage qui envoie le Biarritz Olympique en top 14. C'est historique, Nico! Biarritz en top 14 et Bayonne relégué en Pro D2.
Voilà une fin de saison dernière qui nous donne encore les frissons, notamment cette finale.
Ça dépend. Hein.
D'accession. Ouais. Ah oui, pour les baïonnés que tu es, Richard, évidemment. C'est un moment un peu difficile.
Ouais, c'est pas terrible en fait.
Bon, tous les gars, pour les Biarros, ils sont régalés. Et les Catalans aussi. On est avec Patrick Arletas qui est avec nous, le manager de l'USAP. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous.
Salut Patrick.
Bon,
salut
Patrick, ça rappelle de bons souvenirs quand même. Cette saison dernière, vous avez marché sur la Pro D2. Oh là là, il y avait qu'une équipe quasiment dans cette Pro D2.
C'est gentil, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, on a fini premier, effectivement, c'est un bon souvenir, oui, bien sûr, la demi-finale, la finale, bon, c'est toujours des moments très intenses qui viennent clôturer une saison pleine de pression, parce qu'ici, on a toujours, dès qu'on descend pour des deux, on a un objectif fort, c'est de remonter, ça draine pas mal d'espoir, l'espoir de tout un peuple sur les épaules, donc il y a toujours beaucoup de pression, et quand ça se termine bien comme ça, effectivement, c'est des super souvenirs. Ouais.
Y a plus de pression quand on essaye d'accéder au top 14 ou quand on essaye d'y rester, Patrick?
Moi, c'est la même, hein, ouais. C'est pareil, de toute manière, les exigences, voilà... Vous savez, on a un public à la fois très chauvin et à la fois très difficile, qui donne des moments fantastiques quand vous gagnez, quand vous arrivez à atteindre des objectifs, et qui parfois donne des moments plus compliqués quand on n'arrive pas à les atteindre. Donc la pression, elle est existante tout le temps ici. C'est la façon de vivre le rugby est très passionnée, donc forcément ça donne des moments toujours très intenses, dans le mauvais comme dans le très très bon. Donc voilà, là, la saison dernière, c'était le très très bon. On espère que cette saison se terminera bien aussi pour qu'on ait des super souvenirs en tête.
Patrick, l'année dernière, lorsque vous qualifiez pour vous monter en top 14, à partir de combien de temps, à partir de combien de jours, on se dit « Oh, on va arrêter de fêter ça parce qu'on a vraiment du boulot et le plus dur est à venir ».
Bah, on l'a déjà fait, moi j'étais là il y a 3 ans, quand on l'a fait en 2018, ça venait de 1 an et demi, très rapidement, de construction très précaire, très rapide, etc. Donc c'était pas vraiment prévu que ça soit aussi rapide. Donc là on a sans doute pas fêté, mais... On s'est leurré un peu en disant que voilà, on pouvait exister en top 14. Bon, on a vu la saison d'après effectivement que c'était pas le cas. Donc là, cette saison, pour tout dire, on l'a démarré avant la finale et le lendemain de la finale, on s'est déjà dit que le plus compliqué allait démarrer. Donc on en a très peu profité, les joueurs un peu, mais les joueurs étaient dans le même état d'esprit. Voilà, on était un peu traumatisés sur la saison d'il y a 3 ans, donc. On ne voulait pas faire la même chose. En tout cas, on voulait être légitime dans ce top 14. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire cette saison, à être légitime. Et ça, ça ne veut pas dire se maintenir, hein, être légitime. Ça veut dire simplement voilà, montrer qu'on est au niveau de ce top 14. Mmh. Pas dans les premières places, bien sûr, mais qu'on peut y exister dedans. Voilà, le plus dur, le plus dur est toujours le reste, c'est-à-dire de s'y maintenir. Voilà. Mais on l'a fait de suite, dès le lendemain.
Qu'est-ce qui
et
fait
même
la différence
bien avant la finale, en fait.
Pardon Patrick, qu'est-ce qui fait la différence du parcours de l'USAP il y a 3 ans à celui que vous réalisez cette année? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre, sinon, manière d'aborder la saison et puis finalement de construire peut-être une équipe et le projet?
Oui, tout a changé. Moi, je suis arrivé, on est monté en 2018, moi, je suis arrivé à l'automne 2016. Mmh. Donc, ça a pris 1 an et demi. La construction était très fragile, on a fait plus sur un enthousiasme que réellement en le calculant. Bon voilà, là on a eu l'arrêt du Covid, où on était déjà premier à l'arrêt du Covid, ex aequo avec Colomiers, enfin un point derrière Colomiers. Ça s'est arrêté, mais on était plutôt bien lancé. On avait commencé déjà à construire avec des joueurs d'expérience, des jeunes qui prenaient eux aussi de l'expérience là-dessus. On avait l'expérience aussi. 60% de ce groupe avait connu le top 14 en 2018, donc on avait cette expérience-là en plus, on savait la difficulté aussi. Bon voilà, y a beaucoup de choses ont changé, on a eu 2 ans pour se construire en Pro D2, en se construisant vraiment, pas en construisant qu'un jeu, parce qu'on a gardé les mêmes entraîneurs, donc on avait un jeu un peu plus établi, ça allait plus vite pour intégrer les nouveaux joueurs. Y a beaucoup de choses ont changé, enfin plein, voilà. Mais, voilà, ce qui donne qu'on est plus consistant. Voilà, ce qui n'enlève pas la difficulté d'y rester, hein, mais ça donne une équipe plus consistante.
Cette saison 2018-2019, qui avait été un cauchemar pour vous, Patrick, et pour l'USAP, elle est restée dans les esprits. Elle se dit surtout plus jamais ça.
Oui, bon, ça a servi à tout le monde. Hein, ça a servi. Bayonne et Brive sont montés. Moi, j'en ai discuté avec eux, mais aussi eux, ils ont dit surtout pas. Voilà, cette saison-là. Après, il y a eu Agen, qui a eu encore plus de difficultés que nous. Mais oui, elle est restée. Vous êtes traumatisé. Enfin, ça fait partie de l'expérience. Vous savez, l'expérience, c'est quelque chose de terrible, l'expérience. Parce que vous n'avez pas parlé, prévenir, avertir ou quoi que ce soit. Quand vous ne vivez pas les choses, vous êtes pas vraiment, vous le maîtrisez pas vraiment. Cette saison, il fallait la vivre. On avait beau dire le top 14, attention, c'est dur, ça tape fort, toutes les équipes sont très fortes avec un effectif largement supérieur au nôtre. Bon, tant que vous l'avez pas vécu, nous, on a eu la malchance et en même temps la chance par rapport à cette année, voilà, de le vivre vraiment. Donc, oui, ça reste. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas que ça inhibe, il faut pas que ça enlève la volonté d'y retourner, il faut pas que ça enlève la volonté d'y rester. Voilà. Donc, une fois qu'on a balayé ça, ben, fatalement, c'est une expérience bénéfique, quoi, pour pouvoir être plus consistant.
Salut Patrick, c'est Richard.
Salut Richard.
Vous êtes connus où tous les deux là d'ailleurs?
On a fait France U ensemble, j'ai souvent suivi et puis on m'a toujours comparé à son papa parce que j'avais des chaussettes en bas et j'étais aussi un joueur très très fin comme son père. Voilà.
Donc, qui se ressemble, ça ressemble, c'est pour ça qu'on s'entendait bien.
On s'est toujours très très bien entendu parce que voilà, et puis Richard il avait le caractère qu'on aime ici dans le sud.
Un philosophe,
Catalogne, il aurait pu jouer à Perpignan, Richard. Voilà, ça ne devrait pas détonner.
C'est vrai, de l'autre côté des Pyrénées, t'aurais été bien, Richard. T'as préféré.
J'en ai fait des clubs. J'en ai fait beaucoup, mais pas là. J'ai pas pu y aller. J'ai pas eu l'occasion d'y aller.
Si t'avais fait celui-là, tu serais resté plus longtemps que dans tous les autres. Hein,
j'y serais peut-être encore.
Ouais, c'est possible. Hein, c'est possible.
Et dans cette période de sprint final, rien n'est joué parce que le calendrier de l'USAP est peut-être meilleur que celui de Brive.
Oui, c'est discutable, mais en tout cas, c'est envisageable, quoi. Ouais.
Mais en tout cas, préparer l'avenir. Est-ce que actuellement, parce qu'il faut préparer ton groupe pour l'année prochaine, tu proposes des contrats top 14 et des contrats pro D2?
Oui, oui, oui.
Voilà.
Ouais, moi, je suis, tu sais, Richard, j'ai fait les études de maths, moi, beaucoup.
Ouais,
donc, voilà. Donc, j'ai fait des études de maths, je suis petit-fils de viticulteur. Voilà, on a tendance à essayer de prévoir, d'avoir les pieds sur terre et de prévoir et d'être très... voilà. Nous, depuis le début, on le sait. C'est pour ça que moi, je parle depuis le début de la finale d'ATS, parce que je sais que c'est une réalité, voilà, que la logique voudrait qu'on la fasse. Hein. Je sais qu'à la fin de l'année, on est des promus, donc on a une chance de rester en top 14 et une chance, la même, de descendre en Pro D2. On a essayé de faire en sorte de mettre tout de notre côté pour essayer d'avoir le plus de chances possible d'être en top 14, mais on n'occulte pas le fait d'être en Pro D2. Donc oui, on a des doubles contrats sur tous les joueurs qu'on recrute. C'est notre difficulté aussi par rapport au recrutement. C'est qu'on est, c'est qu'en plus, moi, je ne veux pas mentir ni aux joueurs, ni rien du tout. C'est quelque chose qu'on évoque, voilà, parce que c'est une possibilité. Et voilà, donc c'est dans les contrats. Il y a un contrat Pro D2, un contrat.
Et tu arrives à attirer des joueurs.
Ben, c'est difficile, mais ouais, voilà. il y en a qui sont intéressés par ce challenge-là. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Le gros avantage qu'on a, c'est que l'USAP est assez médiatisé encore, donc de venir à l'USAP, ça n'enlève pas toute lisibilité par rapport... Bon, on l'a vu, là, hein, avec Jaminet, Quentin Walker, par exemple. Nous, on l'a fait toute la saison en Pro D2, mais les deux, ils sont partis en équipe de France à la tournée, parce que, voilà. Donc on y arrive. Alors, c'est difficile, Richard. Voilà, on a moins de pognon que les autres. Hein, on a l'incertitude entre le top 14 et la Pro D2. Je ne vais pas te dire que c'est super, ouais. Mais...
Il faut avoir des idées, il faut avoir...
Quand on n'a pas de sous, il faut avoir des idées, c'est
exactement.
Ça.
Exactement, il faut avoir une façon de convaincre les joueurs.
Ouais, voilà, parce qu'il y a pas mal de joueurs, il suffit de chercher. Ici, on a quelque chose, Richard, toi plus que les autres, sans doute, tu peux le comprendre, mais... Vivre l'expérience rugby en Catalogne, voilà, c'est pas, je dis pas que c'est mieux qu'ailleurs. Hein,
oui, mais il y a toujours un public qui est là, il y a voilà, la ferveur, c'est sûr.
Vous êtes en immersion complète, ouais. dans ce sport-là. voilà, oui. Ça crée des émotions, c'est pas transparent, ça fait partie d'une histoire assez forte, ça fait partie de l'histoire d'un territoire aussi. Je sais qu'on dit tous les mêmes mots, mais on peut pas nous enlever quand même qu'ici, on le... Voilà, ça a plus d'accent, plus de couleurs, plus de... Bon, voilà, ce qui est difficile à vivre de temps en temps. Hein. Il y a des joueurs qui s'y perdent là-dedans, voilà, sur la pression.
J'ai une petite histoire, moi, avec le public catalan depuis mon passage à Béziers.
C'est quand t'as montré ton cul, c'est ça?
Raconte-nous ça, Richard.
J'ai pas montré mes fesses, j'avais gardé mon caleçon, mais effectivement, j'avais secoué mes fesses devant le public catalan quand je jouais à Béziers. Je venais de mettre la pénalité qui nous faisait passer devant, je crois, 18-15. Ouais. C'est à l'époque des playoffs, playdown, et en plus de ça, j'avais pris malheureusement un troisième carton jaune dans 10 matchs.
Étonnant.
C'est étonnant. Et je devais être suspendu 10 jours. Et comme c'était playoff, playdown, j'avais eu les 10 jours pendant la journée où il n'y avait rien. Alors les Catalans, ça les avait énervés encore plus, puisqu'au match retour, mais je jouais alors que j'aurais dû être suspendu. J'avais pas eu de match de suspension, j'avais eu que des jours. Donc c'était devenu une chanson, hein, les Richard, montre-nous tes fesses. Et puis après, c'est devenu, au départ, c'était un peu agressif. On connaît la ferveur des Catalans et du Sud-Est. Bronca. Et puis après, c'était bon enfant. Donc quand je suis revenu en tant que manager de Bayonne, j'ai secoué un peu mes fesses. Devant, voilà, et ça a toujours été. C'est le seul club
qui de résumer un peu, c'est un peu ce qui nous entoure, mais voilà, les gens le vivent à fond. Donc les joueurs, à un moment donné, ils sont un peu marqués, c'est pas pour rien qu'il y en a certains qui viennent pour y faire juste une étape et puis ils y restent. Voilà, on a beaucoup d'Iliens, beaucoup de joueurs aussi confirmés qui restent par là, des entraîneurs aussi, voilà, qui ont toujours une maison ici, etc. Parce que c'est une façon de vivre le rugby qui est plus intense. Voilà. Ça ne veut pas dire plus agréable tout le temps, hein. Je redis encore une fois, hein. Mais c'est intense en tout cas. Voilà.
Alors Jeff, raconte-nous un peu justement les problèmes de... Pas les problèmes, mais les disparités de budget entre toutes les équipes du top 14. Souvent, le budget correspond un peu malheureusement au classement, mis à part quelques petites exceptions.
Hein. Ouais, à votre avis, Perpignan et Biarritz ont quel budget? Quel positionnement, quel classement ?
13 et 14.
13 et 14, c'est, malheureusement, c'est assez logique.
Loin et pourtant, du stade ce français. Sont deux places fortes du rugby français.
Oui, mais on est très très loin des budgets du stade français, du stade toulousain, de Lyon, etc. Avant-dernier budget, si je ne dis pas de bêtises, Patrick, reprends-moi, c'est 17,4 millions. Le budget de Perpignan pour cette saison et Biarritz, 12,8. C'est ça, et ça vous dit si ça correspond à peu près à la réalité du classement. Ça vous direz aussi que le Stade français a le plus gros budget du top 14 et pourtant les Parisiens sont loin d'être en tête du top 14. Mais c'est vrai que ça correspond à une certaine logique économique pour avoir des joueurs évidemment confirmés, avoir beaucoup de bancs, des joueurs aussi qui sont capables de faire la différence sur le banc. Ça a un coût, ça a un prix.
Le budget, ça fait beaucoup, mais le plus important, c'est de savoir dépenser le budget. Oui. Comme il faut, en payant les joueurs comme il faut.
Tu veux dire que le Stade français ne sait pas faire, c'est ça ?
Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que si je sous-entends peu peut-être. Oui. Mais c'est en fait utiliser. Ce n'est pas parce que l'USAP a 17 millions de budget qu'ils ne peuvent pas avoir une grosse équipe. Alors c'est plus compliqué.
Non, il faut être malin.
Voilà, en fait. Il faut être intelligent, il faut être malin. Et il y a de quoi construire. Voilà, il faut s'y prendre en avance. Et c'est ça qui est un petit peu la difficulté, c'est pour ça que je posais la question à Patrick sur la préparation de la saison prochaine, parce qu'il faut, c'est quasiment fini normalement la constitution d'un groupe quand on est au mois d'avril. Il reste 2-3 mois, essaie de peaufiner l'effectif sur du nombre, mais la grosse qualité d'un manager, c'est d'avoir fini à peu près sa constitution de groupe maintenant.
On rappelle, Richard, que la période des mutations est plus longue pour les clubs qui sont promus en top 14, jusqu'à 10 juillet, si je ne dis pas de bêtises, je dis ça de mémoire, alors que les autres, on doit quitter ça plus tôt, sauf que malheureusement, il n'y a plus beaucoup de joueurs disponibles.
Sauf qu'ils partent plus tard. Il faut savoir que c'est comme en boîte quand tu sors à 5h du matin, il ne reste que les invendus. Hein, donc au mois de juin, juillet. Mais juin, c'est compliqué d'avoir les meilleurs joueurs, quoi. C'est toujours pareil.
Ah, c'est un boss. belle image qui n'engage que lui.
Oui,
ça regarde que nous.
Que toi, même. Sans doute des choses à beaucoup de monde ici.
Ça parle à tout le monde. Si Christophe, t'as rigolé, c'est que ça te parle.
C'est l'expérience qui parle, Richard.
Exactement, Patrick.
Sur les sorties en boîte, je parle. Mais.
Non, mais c'est ça, quoi.
Tout a été dit. Bon, voilà. Et bien sûr, le budget fait aussi. Bon, voilà, il y a des joueurs que nous, avec 17 millions de budget, c'est même pas la peine de les appeler. C'est même pas la peine. Ouais. Après, il y a l'autre chose. Et ta question de tout à l'heure, je rebondis dessus parce que c'est ça la problématique. C'est qu'effectivement, quand on doit faire un double contrat Pro D2 et Top 14, c'est la palissade, mais ça veut dire qu'on peut être en Pro D2 fatalement l'année d'après. Donc le recrutement n'est pas le même. Alors quand vous montez, si c'est ça la question, quand vous montez, on ne recrute pas en mai-juin, on recrute à partir du 15 juin. Voilà, donc la période des mutations, parce qu'on est à la certitude d'être en Top 14. Qu'à partir de mi-juin, c'est-à-dire quand on a joué la finale. Voilà.
Et derrière, le deuxième club qui peut éventuellement accéder au top 14 le sait encore plus tard ou descendre en Pro D2. Ça a été le cas l'année dernière pour
c'est une semaine après pour celui qui fait la finale d'accès.
Mais quand vous avez piqué les derniers joueurs une semaine avant, il reste encore moins de monde.
Et donc vous êtes le 10 juin. Alors, comme l'a dit Richard de manière très imagée, et ça a parlé à tout le monde, effectivement, ce qui reste, c'est pas les plus jolis.
Souvent, tu veux garder ton groupe.
C'est de temps en temps, Richard, quand même, les plus vaillants. Voilà, oui. Même en boîte, voilà. Mais ce n'est pas forcément les plus jolis, effectivement. Donc il y a à faire là-dessus. Et puis, la problématique, elle est facile. Hein. Vous arrivez après les autres avec moins d'oseille. Donc forcément, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc ça, il y a une problématique par rapport à ça. Vous ne pouvez pas beaucoup anticiper. La seule chose que vous pouvez anticiper, c'est d'avoir des joueurs confirmés qui vont vous aider à gagner le championnat de Pro D2 l'année d'après, si jamais vous ne gagnez pas la finale et que vous ne gagnez pas la finale d'accès. Et en même temps, vous avez 15 jours, on va dire 3 semaines pour essayer de récupérer 3-4 mecs qui ont le niveau de top 14 et qui ont été oubliés par les autres clubs. Bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent, à ce moment-là, pas un problème de pognon, d'ailleurs. Parce qu'il vous en reste toujours un peu, finalement. La problématique, c'est de trouver des mecs qui disent oui là-dedans. Souvent, c'est quand même le désert. Et puis la problématique se répercute parce que vous montez, vous avez ces difficultés, vous avez quand même 99 chances sur 100 de faire partie des deux derniers, en tout cas de jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Voilà. Et donc, vous avez la même incertitude pour l'année, la première année où vous vous maintenez. Et donc, les mêmes problématiques pour recruter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein,
pour rebondir sur ce que tu disais, Patrick, sur les clubs, justement, quel avenir pour les clubs qui sont promus ? Est-ce que tous ces clubs-là sont forcément amenés à lutter pour le maintien ? J'ai regardé un peu les stats.
Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Jeff.
Et non, non, mais justement, j'ai regardé. Est-ce que ça arrive ? En gros, il y a 50% des cas où un club qui monte redescend immédiatement. Pas plus. Oui. En gros, c'est 50%. Il y a des exceptions, ouais. Évidemment.
Il y a celui qui perd la finale d'accès. C'est, comme disait Patrick, c'est très compliqué puisque voilà, il descend, les joueurs veulent partir, veulent rester en top 14 et on est au 15 juin, c'est dur.
Non, bien
mais
sûr.
Quand on regarde le calendrier quand on regarde la saison de l'USAP, et Patrick, il va être d'accord avec moi parce qu'il la connaît beaucoup mieux que moi, il y a 2-3 matchs à la maison qui doivent gagner, ça peut basculer de leur côté. Ils se retrouvent à la place de Brive ou devant. Contre le Stade français
si la question,
à Perpignan.
Est-ce qu'on peut... Richard, je suis d'accord avec toi. Si la question c'est est-ce qu'un club qui est promu peut se maintenir, oui, il peut se maintenir. Il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce qu'un club qui est promu joue le maintien et la relégation et fera partie des trois dernières places? Oui, je vous dis oui aussi. La seule façon de d'empêcher ça, c'est un peu ce qui avait été fait les autres années.
Ah, Lyon, peut-être.
Ça n'arrange pas le budget ni rien du tout, mais c'est d'avoir un très gros budget en Pro D2 qui va faire que les mecs qui vont signer en Pro D2 sauront qu'il n'y passera qu'un an parce que l'effectif va être tellement fort que l'ascension est quasiment assurée. Pour assurer une ascension, il faut enlever l'incertitude des phases finales. C'est le faire comme il y avait à une époque, c'est-à-dire comme Toulon est monté, comme Lyon est monté, comme le Racing est monté, comme La Rochelle est monté. Tous les clubs qui ne jouent plus le maintien depuis très longtemps et même l'ont très peu joué quand ils sont montés, ont été de suite dans les meilleurs clubs de top 14.
Le Racing avait fini 6e.
Ils avaient un budget, le Racing aussi.
Toulon.
Mais ils avaient un budget conséquent déjà en Pro D2. Oui. C'est-à-dire que mon budget à moi, ils l'avaient quand ils étaient en Pro D2. Donc ils pouvaient attirer des joueurs là-dessus. Et ensuite, ils n'avaient pas l'incertitude des phases finales, ce qui fait que en avril, ils avaient tellement de points d'avance en étant premier qu'ils pouvaient déjà faire un recrutement de top 14 sans prendre de risque, puisqu'ils étaient quasiment assurés, puisque le premier montait automatiquement en top 14, sans passer par des matchs couperés. Donc là, parce que moi, on peut être premier avec 10 points d'avance, ça nous arrive. Nous, l'année dernière, on avait beaucoup de points d'avance en étant premier, parce qu'on a largué Van sur la fin.
Mais vous n'aviez pas la certitude de jouer en top 14, parce qu'il y avait cette finale,
vous. Vous n'êtes pas sûr de pas chuter en finale ou en demi.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas... Alors, justement, Manu, est-ce qu'il ne faudrait pas changer ce système, cette finale, finalement, qui ne récompense pas celui qui a brillé tout au long de la saison et qui est premier, qui devrait... Dans toutes les autres disciplines, le premier d'une division inférieure monte dans l'élite à la fin.
Mais Christophe,
si vous voulez, si je peux me permettre, en une demi-seconde, mais moi je connais bien maintenant le championnat de Pro D2. Je comprends le principe de la finale d'accès, je le comprends. Voilà, c'est-à-dire c'est finalement c'est contre-productif là, parce que sur les trois dernières années, c'est l'équipe de top 14 qui a perdu la finale d'accès. Ouais. Mais à la base, la finale d'accès, elle n'a pas été faite pour la Pro D2, elle a été faite pour le top 14.
Exactement.
C'était une chance de plus, parce que nous, si on finit 13e, par exemple, là, en fait, la finale d'accès, c'est une chance de plus de se maintenir par rapport à ce qui existait avant. C'est pas une chance de plus de descendre, puisque avant, le 13e et le 14e descendaient.
Mais oui, mais là, depuis deux saisons, effectivement, comme tu le dis, Patrick,
voilà. Contre, c'est contre-productif. Voilà, parce que ça a été contre-productif parce que c'est le club de Pro D2 qui l'a gagné. Mais je comprends le principe de la finale d'accès, c'est-à-dire d'essayer de donner une chance supplémentaire au club du top 14 et qu'il y ait moins de mouvements sur le top 14 et qu'on puisse s'asseoir tellement c'est dur comme championnat.
Mais quand on est en Pro D2, ça doit être une énorme frustration aussi de se dire il n'y a peut-être qu'une chance de monter, d'atteindre l'élite. On est quasiment dans une ligue fermée quelque part.
Ce qu'il faudrait faire simplement, moi c'est ce qui me semble le plus logique, c'est de faire en sorte que le premier monte directement et celui qui gagne le championnat, c'est-à-dire on fait les demi et la finale sans le premier du championnat qui lui
donc monte, un peu juste pour le juste honorifique en quelque sorte.
Finale, il se gagne le droit de jouer sa montée en top 14. Ouais,
pour le 2, 3, 4, 5.
Et ça protège le top 14 et ça fait de la lisibilité par rapport au premier qui a écrasé tout le monde.
Ouais.
Et tout le monde est content. Et ça fait des phases finales. Mais les phases finales, elles ne sont plus pour être champion. Les phases finales, elles sont faites pour monter. Mais Patrick, je vais vous dire, oui. Moi, ça fait deux fois là, qu'on gagne le championnat. Je finis simplement, je suis désolé, je parle beaucoup, il ne fallait pas m'inviter. nous, on a gagné deux fois le championnat de Pro D2. Mais sincèrement, dans nos têtes à nous, bien sûr, on est champion de France de Pro D2, mais nous, dans nos têtes à nous, on est monté deux fois en top 14. C'est ça qui nous a fait. Voilà, vous voyez.
Pour rebondir sur ça, Patrick.
C'est chouette d'être champion de France de Pro D2, mais nous, dans nos têtes, ce qu'on voulait, ce qui change vraiment le club, c'est pas d'être champion de Pro D2, c'est de monter en top 14. C'est ça qui fait la révolution dans notre club.
Pour rebondir sur ça, Patrick, la finale d'Access, elle est contre-productive. Pourquoi ? Par rapport au top 14, je parle, hein. Pourquoi ? Parce que si par exemple l'USAP, je ne sais pas, j'espère pas que ça se passe comme l'USAP vient jouer, à Bayonne, est-ce que tu crois que ça va être facile de jouer devant 20 000 personnes qui vont soutenir l'aviron bayonnais ?
Non.
Et ouais, c'est dur. Ou à l'inverse, la finale d'Access, elle se fait à Perpignan. Perpignan qui est en Pro D2, est-ce que tu crois que les supporters catalans, ça ne va pas pousser l'équipe ? Alors moi, je trouve que ce match d'Access, pour être équitable, il devrait être en terrain neutre. Il serait le stade serait plein.
Comme une finale, comme une finale.
Mais moi,
comme
je suis d'accord avec ça.
Ouais, Richard, parce que c'est vraiment, Richard, c'est vraiment dur.
Avec ça. Je suis d'accord avec ça. Bon, voilà, je suis d'accord avec ça. Après, tu sais très bien, il y a de la politique dedans. Moi, j'en sais rien comment ça a été fait. Mais sans doute que pour faire passer la pilule à la Pro D2, de dire il n'y a pas de montée obligatoire, il y aura une finale d'Access. Mais attendez, la finale d'Access, on va la mettre dans le club de Pro D2. Et donc, la Pro D2 accepte un peu plus ce principe de la finale d'Access. Tu vois ce que je te dis, hein ? Ça a dû être fait un peu comme ça. Voilà, l'histoire. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour faire une équité sportive pleine, il faudrait que la finale d'Access soit faite sur terrain.
Franchement, quel que soit le club de top 14,
moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a déjà un écart sportif qui est considérable, logiquement, hein, sur le papier.
Non.
Oui, mais t'es dans une dynamique différente aussi.
Il y a un écart sportif et des moyens qui est totalement différent. C'est David contre Goliath, quand même, le top 14.
Je suis pas d'accord entre les deux, les trois derniers.
Non, on regarde les budgets.
Entre les trois derniers du top 14 et les trois premiers du Pro D2. C'est à peu près pareil. Hein.
Richard, regarde les budgets, juste les budgets.
Non, mais les budgets, c'est pas grave, si tu parles de cohésion d'équipe.
Il y a un monde d'écart, il y a des effectifs qui sont totalement différents, il y a des parcours, des profils de joueurs qui sont différents. Et très sincèrement, même si l'écart peut se resserrer comme tu le dis, moi je trouve qu'il y a une telle ambiance sur ces matchs dans le club de Pro D2, je préfère voir à Perpignan-Bayonne, à Perpignan ou à Bayonne, qu'à Toulouse ou qu'à Brive où il n'y aura personne. Il y a une ambiance extraordinaire.
Ça sera plein.
Mais il n'y aura pas personne, moi je te l'assure.
Regarde.
Moi je te l'assure.
Ouais. Moi aussi.
Oui, mais ça crée une ambiance, une dramaturgie que tu n'as pas ailleurs.
Regarde la finale de Pro D2.
J'entends ce que vous dites sur la différence entre les deux. Il y a aussi des dynamiques qui sont différentes. Il y a aussi un traumatisme d'une équipe qui n'a rien à perdre parce que c'est une équipe de top 14 en face et qu'elle joue la montée, et une équipe qui a tout à perdre, c'est de remettre le club en Pro D2 et que tout le monde intègre en disant oui, mais c'est une équipe de Pro D2 donc ils ont déjà gagné, donc ça rajoute de la pression. Mais donc ça nivelle un peu sur les valeurs de pression, mais peu importe, même qu'on le fasse chez les Pro D2, moi je crois que le vrai sujet,
c'est la finale.
À un moment donné, c'est le fait de faire que le premier monte.
Oui, on est d'accord.
Sincèrement, honnêtement. Après, où on met la finale d'Access, voilà. Moi, la finale d'Access, je trouve que c'est... Et pourtant, je viens de la Pro D2 et j'aime beaucoup la Pro D2 en plus. Donc voilà. Mais la finale d'Access, moi, je trouve que c'est une bonne idée de protéger un peu le top 14, d'essayer de donner une chance de plus au club de top 14 de se maintenir. Mmh. Et je dis ça de manière très à l'aise, pas parce que sans doute on va la faire.
Vous disiez pas ça l'année dernière quand même.
Je disais la même chose. J'ai toujours dit la même chose sur la finale d'Access. Vous pouvez prendre tout le temps. La seule chose sur laquelle j'étais pas d'accord. Et pourtant, on l'a fait deux fois et on est monté deux fois en gagnant la finale. Donc, je veux dire, je pourrais faire « Ouais, c'est une formule fabuleuse, regardez ». Non, sincèrement, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait que le premier ne monte pas directement avec de la lisibilité. Même s'il ne gagne que 15 jours ou 3 semaines, par exemple, parce que vous ne savez pas si vous allez être premier jusqu'à 15 jours ou 3 semaines de la fin. Eh bien, mettons. Mais 15 jours et 3 semaines, c'est énorme.
Ouais, mais voilà, c'est parce que les clubs qui se sont énormes. Ouais, les clubs qui se sont maintenus en top 14 en montant, ce sont ceux qui ont fini premier du championnat de Pro D2.
Oui.
Lyon, le Racing, Toulon, La Rochelle, Parce que La Rochelle, avant de se maintenir en top 14, ils ont fait deux fois l'ascenseur.
Ouais, exactement. Ouais,
bien sûr. Deux, trois fois l'ascenseur. Bien sûr. Ça se construit un club. C'est ce qu'est en train de faire le Perpignan. J'espère qu'ils ne feront pas l'ascenseur, sauf s'ils jouent contre Bayonne, bien sûr. Mais ça se construit. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Patrick sur la récompense d'une équipe qui domine de la tête et des épaules la Pro D2, ou pas. Parce que c'est possible. Mais le premier, ben voilà, il prépare sa saison. Maintenant, la saison, ok, on est premier, on a 10 points d'avance.
Mais
on
peut tout, préparer. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Imaginez, à un moment donné, qu'on n'ait que 4 places pour la H-Cup. Voilà, imaginez. Voilà, imaginez d'un seul coup qu'on ait 4 places pour la H-Cup. Et on décide que ce n'est pas les 4 premiers, mais c'est les 4 demi-finalistes. Mmh. Avec les barrages, etc. Mais c'est pas possible. Donc le mec, un mec qui a fini troisième, etc. machin, il perd dans son barrage à la maison, etc. machin, il fait pas la H-Cup. Ouais. Bien sûr que tout le monde sauterait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu pareil. À un moment donné, ça dépend pourquoi il fait la Pro D2. La Pro D2, elle est faite pour monter. C'est un championnat et dont la finalité, c'est de monter en top 14, c'est de préparer, c'est l'antichambre du top
14.
C'est
pas d'être champion de Pro D2, ça, on s'en fiche un peu.
Non, mais bien sûr que non, parce qu'il y a plein de clubs qui ou ne veulent pas monter ou ne peuvent pas monter. Ouais. Mais la formule, elle est faite comme ça. Vous voyez bien qu'à un moment donné, la formule, elle est faite comme ça. Ouais. Voilà, c'est obligatoire. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il faut réfléchir à comment faire en sorte que le club qui monte soit dans des conditions qui soient un minimum favorables pour monter. Vous ne pouvez pas cumuler les inconvénients. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir moins de pognon que les autres, être moins bien préparé que les autres, avec de moins bons joueurs que les autres.
Partir avec 10 points de moins là, au coup d'envoi en plus.
C'est pas possible.
Alors, avant de parler de cette.
Parce qu'on parle beaucoup de Pro D2, mais il reste encore une fin de saison à négocier.
Bien sûr, c'est pas terminé, loin de là.
Perpignan est encore vivant, Patrick. Il y a 7 points d'accord. J'espère bien, plus que jamais même. Perpignan est avant-dernier, 13e, avec 7 points de retard sur Brive, et ça tombe bien, puisque ce week-end, il y a un match, la réception de Brive à Aimé Giral, qui va être bouillante. Et encore, tout est possible. Ensuite, l'USAP, ce sera un déplacement à Castres qui reste, je ne sais pas, sur une vingtaine de matchs consécutifs sans défaite à domicile. Juste comme ça, je rappelle ça. Et réception de l'UBB. Pour les brivistes, ça va être bien coton aussi, parce qu'ils ont une réception du Stade Toulousain qui va arriver avec le couteau entre les dents. Et un déplacement au Stade Français qui peut éventuellement jouer peut-être une 8e place européenne. C'est vous dire si tout est possible, et on ne sait pas encore qui sera barragiste. Mmh. On sait déjà qu'en tout cas que Biarritz va finir en Pro D2.
Alors, Patrick va se boucher les oreilles, mais je vais demander aux autres poteaux de savoir qui il voit accéder ou rester dans l'élite la saison prochaine et qui va descendre. Manu, on va commencer par toi.
Biarritz
descendre, oui, ça c'est sûr. La palissade, merci. Ouais. Merci d'être venu.
On parle donc de la 13e place. Hein. Ouais. C'est bien ça. La question, c'est qui sera 13e. Aujourd'hui, Perpignan a 7 points de retard.
On peut
c'est
pas
ça, exactement.
La semaine prochaine, en fait.
Et tout va se jouer ce week-end. Ouais. Après, c'est kiff-kiff. Tu disais, il y a Toulouse Stade Français d'un côté.
Castres UBB.
Aujourd'hui. Si Perpignan veut se sauver, il faut gagner ce week-end. Exactement.
Ouais, ça dépend de ce week-end.
Donc pour l'instant, moi, je mets avantage à Brive.
Richard.
L'USAP. Pourquoi l'USAP? Parce que le Stade Toulousain est obligé de gagner à Brive. S'il veut se qualifier, parce que c'est pas s'il veut être demi-finaliste.
Donc
veut
tu
qualifier.
Penses que l'USAP va être 12e, donc ne sera pas. D'accord, très bien.
Et l'UBB va se déplacer à Perpignan le dernier match en étant sûr d'être premier ou second.
Ouais, t'oublies Castres, hein, Richard.
Non mais Castres, on s'en fout. Ils seront qualifiés.
Brive gagne pas de match, on est devant. Hein.
Ouais. Voilà.
On a le droit d'appeler Denis Charvet pour avoir un pronostic.
Si Brive gagne zéro match et que l'USAP bat Brive, bien sûr, et gagne contre l'UBB le dernier match, c'est l'USAP qui finit 12e.
Bah, bonne chance et démerdez-vous, hein, Patrick.
Bon, et en Pro D2, qui jouera la finale face au 13e, à votre avis, hein, Richard.
J'espère que ce ne sera pas Bayonne, parce que ça voudrait dire qu'il serait premier, qu'il ait gagné la finale. Ouais. Et sinon, De toute façon, c'est Bayonne ou Yuna ou Moulmarsan pour moi. Ouais. Donc après, je peux pas vous dire lequel. Ouais. Ça dépendra de la dernière journée ou des deux dernières journées en Pro D2. Savoir qui va finir second ou troisième entre Bayonne et Yuna parce qu'ils sont à égalité actuellement. Et que Moulmarsan, à mon avis, va finir premier. Donc après, il y a la demi-finale, la réception en demi-finale. C'est toujours pareil, jouer une demi-finale extérieure. Même si Bayonne l'avait fait il y a deux ans, gagner Yuna.
On n'y gagne pas souvent dans ce coin-là. Très bien, Patrick, on vous souhaite plein de bonnes choses évidemment pour le week-end prochain et pour le reste de la saison.
Il va y avoir pas de pronostic, moi.
Non, vous n'avez pas le droit. Non.
C'est interdit.
Bonne fin de saison, Patrick.
Merci, Patrick Arrestaz.
Merci beaucoup, merci à vous.
D'être venu entre les poteaux. Merci à Richard. Il est pas mal, on va peut-être le garder.
Il est pas mal, ce jeune. Il connaît mieux le rugby de Denis, quoi.
Ouais, c'est pratique.
Il coûte beaucoup plus cher.
Enfin, un mec qui a joué.
Mais c'est ça, ouais.
Tu comprends pourquoi on le paye cher, encore plus cher.
Ah, oui, j'ai bien compris. Mais en plus, avec les sous qu'il prend à Midi Olympique, quand même.
Ouais. Exactement.
Ouais, quand même.
On doit faire une pige commune.
Exactement.
On va faire une pige commune.
Ouais, on va faire un forfait. Ouais.
Vous déconnez là.
Merci pour tout. Allez.
Allez, je vous embrasse, les potos. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ciao.